Nous allons demander à Renaud Fabre, directeur de l'IST du CNRS. De nous parler de la politique du CNRS en matière d'open.
Oui, j'en resterai non pas à des aspects qui seraient ceux de la stratégie du CNRS, mais à ce que nous pouvons en partager, en remerciant Jean-Pierre Finance et Couperin de cette invitation au partage. Et donc, il va être ici question de l'Open Access Green sous l'angle de la démarche qui est construite pour que les ressources et les projets que nous avons pu construire soient partagés à brève échéance, sous l'impulsion d'un certain nombre d'orateurs qui ont déjà sans doute abordé ces questions aujourd'hui. Claude Kirchner, ici présent, président du comité de pilotage du CCSD, et Christine Berthaud, directrice du CCSD, qui nous a quittés, mais qui a très certainement dit l'essentiel pour ce qui est du fonctionnement de HAL. Donc je vais borner mon intervention à traiter, non pas, comme je l'avais fait, d'éléments historiques concernant le développement de l'open access, mais de la démarche par laquelle nous pouvons partager l'état actuel de la démarche et de la construction de HAL. On partira, si vous le voulez bien, pour aller plus vite, du dernier point de ce slide, le Conornum qui s'est tenu hier et qui, vous le savez, est notre plus haute instance de programmation numérique au plan national, puisqu'il rassemble l'ensemble des forces qui concourent à cette tâche, la CPU bien entendu, représentée par François Germinet, président de commission numérique de la CPU, mais également l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de l'enseignement supérieur et de la recherche étant coprésidents de cette instance. Or, hier, donc, sur le rapport qu'avait fait Claude Kirchner du comité de pilotage du CCSD, eh bien, ont été retenues un certain nombre d'orientations qui vont donner lieu à un document de cadrage sur le développement de l'Open Access Green à partir de HAL. Ce document de cadrage sera bien entendu construit avec les instances de HAL, son conseil scientifique, son comité scientifique et technique, et puis bien sûr le comité de pilotage sous la présidence de Claude Kirchner. Donc un coup de pouce pour aller de l'avant a été très clairement donné par le Conornum, qui reconnaît donc au Green une fonction d'infrastructure nationale. Bon. Je voudrais maintenant vous dire un mot, mais alors très rapidement, de la démarche par laquelle, au CNRS, nous avons cherché à organiser le meilleur partage possible de l'archive ouverte HAL. Bon, nous avons monté une grosse étude technico-budgétaire qui nous amène à sur tout le périmètre de l'IST au CNRS, à structurer, valoriser, projeter, puis à construire une organisation qui soit partagée autour de 5 grandes catégories de services: la documentation, l'open access, l'édition numérique, l'édition en libre service partagé, l'analyse de l'IST autour de la métrique, et enfin, le partage des données. Et nous en sommes assez loin dans l'élaboration d'une offre qui a fait l'objet d'un séminaire de partage entre l'ensemble des instituts du CNRS d'une part, d'autre part l'INIST qui avait déjà largement associé dès l'année dernière, tu t'en souviens Jean-Pierre, la CPU et le ministère à l'idée d'une offre qui soit construite et qui puisse être partagée. Et ce séminaire donc s'est tenu avec l'INIST, Percé, le CCSD, les 10 instituts, et il en sort l'idée de pouvoir proposer, lors du colloque de Meudon, qu'ouvrira Jean-Pierre Finance avec Philippe Baptiste, l'ADBU, EPRIST, l'ensemble des collègues qui concourent à la démarche de partage de l'IST, eh bien de pouvoir partager donc ce que nous avons appelé un copiste, un catalogue d'offres partagées d'IST sur le périmètre de ces 5 services. Alors, la plateforme d'open access que nous allons proposer de partager fait partie donc de cette série de services auxquels s'accompagnent, auxquels s'associent des services d'accompagnement sous la forme d'une plateforme de fonction d'appui comportant des services de hotline juridique, de formation, de sécurité et d'éthique. Donc cette démarche globale, nous souhaitons pouvoir la partager à partir de la construction en 2015-2016 d'une offre de services qui soit discutée, approfondie avec l'ensemble des collègues des universités et des organismes, d'une part, et pour que cette démarche puisse se structurer, nous allons proposer que la période de novembre à mars soit une période d'appel à manifestation d'intérêt autour des éléments de ce copiste, de cette offre en cinq grandes parties, et que nous puissions réaliser des études de cadrage ouvertes à l'ensemble des partenaires, et ceci lors des premiers mois de l'année 2016, de façon à pouvoir structurer sur le périmètre des services, des 5 grandes catégories de services, eh bien une mise en commun de nos ressources. Mise en commun signifiant soit utilisation conjointe des ressources existantes dans le périmètre CNRS, soit, si cela est possible et jouable, raccordement avec celle des éléments d'offre qui existent sur le même périmètre dans les universités et dans les organismes. Nous allons pouvoir compter en cela sur l'aide d'un cabinet de conseil qui nous a suivis dans cette démarche et avec lequel a été passé un marché à commande qui nous permettra donc, sans avoir à recourir de nouveau à l'appel à la concurrence, de pouvoir héberger des études en souscription. Voilà, tout ça est dit très vite et je ne vais pas attarder mon propos. Je voudrais, avant de conclure, dire que cette démarche est une démarche dans laquelle nous devons partager, évidemment, d'abord des éléments communs sur le sens que prend l'open access aujourd'hui. Je sais que tu as, Jean-Pierre, une réflexion construite qu'il nous faut partager sans doute davantage autour de toi sur les éléments constitutifs de cette démarche pour reconnaître ce que sont l'ensemble des grandes ressources d'IST qui constituent aujourd'hui le trésor commun de l'IST que nous partageons entre universités et organismes, et d'abord nous poser la question de savoir quel est l'avenir de l'OA Green, qui est un avenir qui est évidemment fort, vigoureux. Il ne s'agit pas d'entrer dans le débat sur Green contre Gold, mais quel est l'avenir exact, comment mieux le spécifier. Une certitude nous avons sur le sujet, c'est que nous manquons quand même encore beaucoup de repères précis et partagés sur les éléments de cette démarche. Il nous est annoncé, et Jean-Pierre le sait sûrement mieux que tous ici, qu'un monitoring à l'échelle européenne est en préparation, que ce serait l'un des objectifs de la présidente de la présidence néerlandaise de l'UE en 2007. En tout cas, il y a sur ce sujet une incertitude sur les modèles globaux sur lesquels, avec tous les acteurs, il faut évidemment qu'on puisse progresser. Donc vous le voyez, en conclusion de ma conclusion, d'une part, le CNRS invite à partager une méthode de travail, certes, mais nous pensons que ce que nous pouvons partager de mieux, c'est des réponses à des questions qui demeurent encore des questions sur lesquelles il y a à mener ensemble des efforts de clarification commune. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Question sur la politique du CNRS.
Oui, merci Renaud. Si je comprends bien, le CNRS, actuellement représenté par vous, prône plutôt une politique green actuellement, même si vous avez...
Non, c'est pas l'idée globale. Nous avons avec l'ensemble des acteurs de l'ensemble des démarches des convergences qui sont fortes. Je ne me ferai pas expliquer que je suis favorable à une démarche plutôt qu'à une autre, pour la bonne et simple raison que j'ai la responsabilité d'assurer la cohérence de démarches globales qui sont d'une grande complexité. Et je sais, Denis, combien vous m'aidez dans ce sens sur des champs où nous avons à trouver des solutions qui soient les plus ouvertes et les mieux partagées communes possibles, et ceci bien au-delà du seul domaine du green.
Non, parce que, juste, je pourrais ajouter, le green, par définition, implique l'embargo. Sinon, c'est plus vivable au niveau commercial pour les éditeurs. Et je dirais, plus on va essayer de réduire les durées d'embargo, plus les frais d'abonnement devraient augmenter, parce que les éditeurs ont bien fait leur compte aussi. Donc, je dirais que ça demande une véritable réflexion au niveau aussi des chercheurs qui aimeraient tout de même avoir un embargo zéro. Ça, c'est vrai, je ne vois pas. Et au niveau financier, donc, ce n'est pas du tout évident que la politique green soit la plus efficace. On est tous d'accord qu'il ne faut pas augmenter les budgets. Ça, je pense qu'on aura un consensus là-dessus. Maintenant, je ne suis pas sûr que le green ne présente pas un risque quand même d'augmentation des budgets.
Voilà une prise de position sur laquelle je vois difficilement à redire.
Oui, Marie.
Moi, j'aimerais en savoir un tout petit peu plus sur le cabinet Ourouk. Peut-on savoir plus sur le cabinet Ourouk?
Bien sûr.
Et combien ça va coûter au CNRS?
Voilà une question citoyenne. Et là-dessus, le cabinet Ourouk, un certain nombre de visages connus dans cette salle me montrent que le CNRS n'est pas leur premier client. Ce cabinet a travaillé pour le CEA, pour INRIA, pour l'INRA, pour l'INSERM, autant que je sache. Et il continue en ce moment même, comme premier cabinet spécialisé en matière d'IST, à travailler pour le pôle universitaire d'Orsay. Et c'est un cabinet qui a fait l'objet, comme toutes les démarches de prestation du CNRS, d'un appel d'offres, en l'occurrence d'un appel d'offres international. Voilà.
Et c'est quel budget pour ça?
Écoutez, le budget de cette opération est un budget qui a plusieurs phases. Si vous souhaitez connaître toutes les phases, je peux vous donner les chiffres, mais de grâce, évitons d'alourdir la discussion sur ce sujet. Me semble-t-il, ce n'est pas tout à fait le lieu de le faire. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que les budgets d'études, en l'occurrence, sont des plus modestes. Voilà. Mais on peut en parler. Hein, quand vous
en
voulez.
Tant que chercheur au CNRS, j'ai quand même des inquiétudes. Je veux dire, c'est pris sur notre budget global. Et donc, c'est toujours important de voir un peu de transparence.
Oui, c'est vrai qu'il faut de la transparence. Il faut de la cohérence aussi. Il faut essayer d'avancer par rapport aux situations du passé. Et... je crois pouvoir dire, après quelques années de Cour des comptes, que le recours à peu de méthode et à peu d'organisation ne fait pas de mal quand on manie des fonds publics.
Oui, je vous en prie. Une fourchette? C'est l'heure de la fourchette.
Vous voulez savoir ce que coûte l'étude qui est en cours? La phase annuelle actuelle... doit être de l'ordre de 70 000 euros, quelque chose comme ça. Donc vous voyez que ce n'est pas une étude faramineuse dans un panorama global d'études où j'imagine vous avez en tête l'ordre de grandeur de ce qu'est le CNRS en termes du nombre d'UMR, en termes de nombre de disciplines et en termes de taille de service. Vous êtes vous-même dans quelle université, madame ? Ah oui, d'accord. Merci.
Bon, je ne voudrais pas rejeter de l'huile sur le feu pour la question de l'évaluation du coût du green et du gold, mais revenir simplement rapidement sur ton dernier transparent où tu me parlais d'une certitude de l'incertitude quant à l'évaluation exacte du coût des APC actuellement en France. Or, on vient d'entendre quand même une prise de position de l'Académie des sciences qui disait très clairement que tout ça a été évalué et que si on transférait le coût des APC sur le coût des abonnements sur les APC, on allait tout à fait résoudre le problème. Par contre, j'apprécie tout à fait ta prudence dans ce domaine. Parce que je dois ajouter que...
Merci à toi d'apprécier ma prudence. Je voudrais quand même saluer au passage, parce que tu me donnes l'occasion de le faire alors que je ne l'ai pas fait, l'esquisse globale qui a été donnée effectivement par l'Académie des sciences et qui montre l'importance de la dépense qui est liée aux abonnements et la nécessité de faire évoluer le modèle économique. Nous sommes, je crois, absolument d'accord sur l'importance de ce chantier, sur la nécessité de le mener avec une expertise de qualité, et ceci sans tarder.
Je dois juste ajouter que BSN lance BSN 4, oui. Open Access, oui, lance absolument. Une étude actuellement sur une évaluation aussi exacte que possible, parce que ça sera très difficile, du coût des APC actuellement en France.
Absolument, je connais ce travail et le CNRS y participera très activement autour du boulot qui a déjà été lancé autour de Christine Velmico, ici présente en tant que déléguée nationale aux acquisitions de ressources du périmètre CNRS et également en tant que membre du bureau professionnel Couperin. Donc on est en phase là-dessus.
Merci, Monsieur Fabre.